আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফা'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম Les vertus de la connaissance islamique. Doa de Attar. Ô Seigneur de Mustapha, quiconque lit ou écoute le livret de 20 pages, Les vertus de la connaissance islamique, accorde-lui l'honneur de rechercher le savoir islamique et d'agir sincèrement en fonction de ton plaisir, et pardonne-lui sans avoir à rendre de compte. Amin, bijahin nabijil amin, sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. L'excellence de la récitation de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tant qu'un musulman récite la salat sur moi, les anges continuent d'envoyer la miséricorde sur lui. » Donc, c'est à la personne de décider si elle récite moins ou plus. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Comment le trône de Bilqis a été transporté? Le trône royal de la reine Bilqis mesurait 80 mètres de long et 40 mètres de large. Il était décoré d'or, d'argent, de bijoux, de perles et d'une foule d'autres objets précieux. Lorsque le prophète Soleiman alayhi salam refusa le porteur de messages de Bilqis et les cadeaux qu'elle avait envoyés, il lui envoya ensuite une lettre dans laquelle il lui demandait de devenir musulmane et de lui rendre visite. Un souhait se développa alors dans le cœur du prophète Souleyman alayhi salam. Avant que Bilqis n'arrive dans sa cour, il voulait que son trône soit présent au préalable. Il avait l'intention de lui montrer cela comme un miracle afin que la véracité de sa prophétie lui apparaisse, car un miracle sert de preuve quant à la véracité d'un prophète. Les exégètes coraniques apportent un éclairage supplémentaire à ce sujet. Ils expliquent comment le prophète Souleyman alayhi salam souhaitait changer l'apparence du trône avant l'arrivée de Bilqis et tester son intellect pour savoir si elle serait capable de le reconnaître. Il s'adressa ensuite à ses courtisans comme mentionné dans le Coran.
Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين.
Traduction. Souleyman a dit « Ô courtisan, lequel d'entre vous peut m'apporter son trône avant qu'il ne vienne dans ma cour respectée en soumission ?» Un djinn extrêmement mauvais a dit « Je présenterai ce trône dans votre cour respectée avant que votre Altesse ne termine cette assemblée. Et je suis en effet puissant et digne de confiance sur ceci. » En entendant ce que le djinn avait à dire, le prophète Souleyman alayhi salam répondit « Je désire que le trône soit ici encore plus rapidement que cela. » Cette déclaration fut entendue par son ministre, Sayyiduna Asif bin Barkhiya rahmatullahi alayhi, qui avait la connaissance de l'ism al-azam et était un saint qui réalisait des miracles. Le Coran décrit comment il a ensuite soumis une requête à la cour du prophète Souleyman alayhi salam, comme mentionné au verset 40 de la sourate An-Naml.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
Traduction. Celui qui avait connaissance du livre a dit « Je le présenterai à la cour de votre majesté avant un clin d'œil. » Sayyiduna Asif bin Barkhiya rahmatullah alayh utilisa son pouvoir spirituel pour amener le trône de Bilqis de Saba au Yémen à Baytul Maqdis à Jérusalem. Le trône lui-même fut transporté sous terre et apparut à côté du siège du prophète Souleyman alayhi salam instantanément. Qu'Allah lui fasse miséricorde et nous pardonne sans avoir à rendre de compte grâce à lui. Amin, bijahin nabijil amin, sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad. Chers frères en islam, la façon dont cet incident décrit un miracle accompli par Sayyiduna Asif bin Barkhiya, rahmatullah alayh, le Coran souligne également la connaissance comme étant le facteur distinctif de son excellence. Acquérir la connaissance islamique est l'un des actes d'adoration les plus supérieurs, comme en témoigne la déclaration suivante de Sayyiduna Abdullah bin Mubarak, rahmatullah alayh. On lui a demandé, qui est vraiment humain ? En réponse, il a dit, les savants. Qui est un roi ? Lui a-t-on encore demandé. Les justes, a-t-il répondu. Enfin, on lui a demandé, qui sont les gens vils ? Ce à quoi il a répondu, ceux qui amassent le monde à la place de la religion. L'imam Muhammad al-Ghazali rahmatullah alayh, explique cette déclaration. Abdullah bin Mubarak rahmatullah alayh, ne considérait pas un non-savant comme véritablement humain, car la connaissance est le mérite distinctif qui différencie l'homme des autres créatures. Les humains atteignent l'essence même de l'humanité grâce à ce mérite, qui leur confère l'honneur. La force physique ne fait pas de l'homme un être humain, car même les chameaux ont plus de force. La taille non plus, car les éléphants sont beaucoup plus grands que les humains. Dans le même ordre d'idées, la bravoure ne fait pas de l'homme un être humain, car les animaux prédateurs sont bien plus courageux. Le fait de consommer plus n'est pas non plus une nécessité, car l'estomac des taureaux est plus gros que celui d'un humain. Au contraire, les humains ont été créés exclusivement pour la connaissance. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 43 de la sourate Al-Ankabut, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Traduction, et nous illustrons ces exemples pour les gens, et personne ne les comprend, sauf les gens du savoir. Un pilier de la foi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, aucune adoration d'Allah n'a jamais été accomplie qui soit plus grande que l'acquisition d'une compréhension de la religion. Et un juriste, un savant, pèse plus lourd sur Satan que 1000 adorateurs. Toute chose a un pilier, et le pilier de cette religion est le fiqh. Dans un autre hadith, il est dit, deux traits de caractère sont tels qu'on ne peut les trouver chez un hypocrite, les bonnes manières et la compréhension de la religion. Une condition préalable pour être un érudit en islam. L'imam al-Ghazali rahmatullah alayh, développe la formulation de ce hadith en disant « Le sens du mot fiqh dans ce hadith n'est pas celui que vous lui attribuez. Le rang minimum d'un juriste exige qu'il ait la certitude totale que l'au-delà est plus grand que ce monde. Si sa reconnaissance de cette question est authentique, il deviendra pur de l'hypocrisie et de l'ostentation. » La volonté de Luqman le sage. Des récits décrivent comment Sayyidina Luqman rahmatullah alayh, a émis un testament à son fils. Il y disait « Mon fils, reste en compagnie des savants, car Allah anime les cœurs de la lumière de la sagesse comme il anime la terre d'une pluie continue, ce dont le cœur se nourrit. » L'ascète Fateh Mousli rahmatullah alayh, a un jour demandé aux gens « Un patient ne mourra-t-il pas si on l'empêche de manger, de boire et de prendre des médicaments ? Pourquoi ne le serait-il pas ? Bien sûr !» ont-ils répondu. Il a ensuite expliqué, « Il en va de même pour le cœur. Il mourra si on le tient éloigné de la connaissance et de la sagesse pendant plus de 3 jours. » L'imam al-Ghazali rahmatullah alayh, a dit à ce sujet, « Fateh Mousli rahmatullah alayh, a dit toute la vérité. De la même manière que la nourriture est l'alimentation du corps, la connaissance et la sagesse sont l'alimentation du cœur. Grâce à cela, une personne reste en vie. Celui qui ne possède pas la connaissance a un cœur malade, qui va sûrement mourir, mais il n'en a pas conscience. Cela est dû au fait que l'amour du monde et le fait d'y rester engagé suppriment cette prise de conscience, de la même manière que l'on ne remarque pas la douleur d'une blessure lorsqu'on est envahi par la peur, bien que la douleur soit présente. Lorsque la mort leur enlève le poids de ce monde, ils se rendent compte de leur destruction et tombent dans le regret, mais cela n'est d'aucune utilité à ce stade. Cela ressemble à la façon dont un individu intoxiqué qui est affligé de blessures alors qu'il est ivre et craintif ne s'en rend compte qu'une fois qu'il n'est plus dans cet état. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le jour où tout sera révélé. Les gens sont en effet endormis et la mort leur ouvrira les yeux. Les vêtements de la modestie. Au verset 26 de la sourate Al-A'raf, Allah déclare « Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha, wa libasut taqwa dhalika khayr. » Traduction. « Ô descendants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui peut cacher vos parties intimes et un autre pour votre parure. Le vêtement de la piété, la foi et le bon caractère. C'est le meilleur. » Concernant ce verset, une opinion est que l'ibasa fait référence à la connaissance, Risha signifie la certitude et libas al-taqwa désigne la modestie. Comme rapporté par Sayyiduna Wahab bin Munabe al-Yemeni rahmatullah alayh, la foi est dépourvue de vêtements. Son vêtement est la droiture, tandis que sa parure est la modestie, et la connaissance est son fruit.
Je n'ai pas le temps de rencontrer le dirigeant de la ville.
Le grand saint Tabi'i, Salim bin Abu Ja'ad rahmatullah alayh, explique « Mon maître m'a acheté pour 300 dirhams, puis m'a libéré. J'ai ensuite réfléchi à la profession que je devais exercer, jusqu'à ce que je me consacre à la recherche de la connaissance de l'islam. Une année ne s'était pas écoulée que le dirigeant de la ville vint me rencontrer, mais je ne lui ai pas donné la permission et j'ai même refusé de le rencontrer. » Dans une déclaration relative à ce sujet, Abu Aswad rahmatullah alayh a dit « Il n'y a rien de plus estimé que le savoir. Les rois gouvernent les gens, tandis que les savants gouvernent les rois. »
La définition littérale et terminologique de la fadila.
L'imam al-Ghazali rahmatullah alayh explique « Le terme fadila, excellence, est tiré de fadl. Ce dernier signifie augmenter. Lorsque deux choses sont initialement égales l'une à l'autre, mais que l'une se distingue en raison d'un accroissement quelconque, on dit qu'elle est devenue afdal, c'est-à-dire plus grande, à l'autre, et atteint la fadila sur elle. Cet accroissement relève de l'excellence pour tous ceux en quoi il se trouve. Cela ressemble à la façon dont on dit « les chevaux ont la fadila sur les ânes ». Bien que tous deux soient capables de porter le même poids, les chevaux sont supérieurs par leur capacité à attaquer, à courir et à assaillir, ainsi que par leur beauté physique. Si l'âne était spécifié pour porter plus de bien, on ne peut toujours pas dire qu'il a pris la fadila sur le cheval. L'augmentation dont il fait l'objet est simplement celle de la charge physique. Il s'agit là d'une lacune et d'un fait banal dans la réalité, car les animaux sont utilisés pour leur qualité et non pas simplement pour leur physique. La connaissance elle-même maintient une fadila absolue sans avoir à être étendue ou attribuée à quoi que ce soit d'autre. Ceci parce qu'elle est un attribut parfait d'Allah, en plus d'être celle dont les nobles prophètes et anges, alayhimus salat wa salam, ont été honorés. Pourquoi nous cherchons ce que nous cherchons? L'imam al-Ghazali, rahmatullah alayh, déclare « N'oubliez pas que toutes les belles choses ardemment recherchées peuvent être divisées en trois catégories. La première est une chose dont l'obtention a une autre raison d'être, comme l'argent, qui n'est en réalité qu'un bout de papier inutile. L'estomac n'est pas rassasié en le mangeant et la soif n'est pas étanchée. Si Allah ne nous permettait pas de satisfaire nos besoins en l'utilisant, l'argent et les déchets de papier auraient tous deux la même valeur. » Sayyiduna Wahab bin Munabe rahmatullah alayh fut un jour interrogé au sujet de l'argent et expliqua en réponse « Pour la subsistance de l'humanité, ce sont les cachets d'Allah sur terre. Ils ne peuvent être ni mangés ni bu et vos besoins seront satisfaits où que vous les preniez. » L'imam poursuit « La seconde est tout ce qui est recherché en soi, comme le succès dans l'au-delà et le plaisir de voir Allah Azza wa Jal. Ce sont les plus grandes et les plus élevées de toutes les bénédictions accordées par Allah Azza wa Jal. La troisième et dernière chose est tout ce qui est initialement recherché en soi, mais dans sa poursuite, quelque chose d'autre est acquis en cours de route. Par exemple, l'homme désire que son corps reste en bonne santé, car s'il se blesse au pied, non seulement il éprouvera de la douleur, mais cela aura également un impact négatif sur d'autres travaux nécessaires dans sa vie. Il s'efforce donc de maintenir son corps en bonne santé et à l'abri du mal. Analysons maintenant la connaissance sous cet angle. Intrinsèquement, la connaissance est gratifiante et relève de la deuxième catégorie, supérieure à la première. Elle est un moyen d'atteindre le succès dans l'au-delà et peut rapprocher l'individu d'Allah Azza wa Jal. Sans elle, l'obtention de cette proximité n'est pas possible. Le rang le plus élevé accordé à l'homme est la félicité et la prospérité éternelle. Les moyens d'y parvenir sont supérieurs à toutes les autres choses. Ce rang suprême ne peut être atteint sans connaissance et sans actes. Si l'on n'a même pas la connaissance de la manière d'accomplir des actes, ceux-ci ne seront pas réalisés. Nous apprenons que la connaissance est le véritable honneur du monde et de l'au-delà. Pour cette raison même, elle est supérieure à tout le reste. Dans une narration relative à cette discussion, il est dit « La plus grande action de votre religion est celle qui est la plus facile, et l'apprentissage de la religion est le plus grand de tous les actes d'adoration. »
Mieux que la richesse.
Le quatrième calife des musulmans, Sayyiduna Ali radiallahu anhu, a dit un jour à Sayyiduna Kumail bin Ziyad Nahri rahmatullahi alayh, « Ô Kumail, le savoir est meilleur que la richesse. » Car le savoir te protège alors que tu dois protéger la richesse. Le savoir est un souverain
et la richesse est dominée. Quand la richesse est dépensée, elle diminue. Quand la connaissance est dépensée, elle augmente.
Sayyidina Ali radiallahu anhu a ensuite dit:
un érudit est plus grand qu'un guerrier qui passe toute sa nuit en adoration et toute sa journée à jeûner. Lorsqu'un érudit meurt, un vide apparaît dans l'islam qui ne peut être comblé par personne d'autre que son adjoint. À une occasion, il a récité certains couplets de poésie qui contenaient ce qui suit. Réussi par la connaissance, tu atteindras la vie éternelle. Les gens meurent tandis que les savants restent en vie. Les difficultés seront atténuées.
Sayyidina Zubair bin Abu Bakr rahmatullah alayhi explique:
j'étais en Irak lorsque mon père m'a envoyé un message disant: rends obligatoire la recherche de la connaissance pour toi. Si tu deviens pauvre, il, c'est-à-dire le savoir, sera ta richesse. Si tu deviens riche, il sera ta beauté. Une narration à cet égard est la suivante: Allah atténuera les difficultés de celui qui acquiert le savoir islamique et lui accordera une subsistance d'où il n'aurait jamais pensé. Lorsqu'un érudit décède. Comme mentionné dans un hadith, un savant est le dépositaire d'Allah sur la terre. Dans une autre narration, il est dit: la disparition d'une tribu entière est plus facile que la mort d'un seul savant. Un homme sage a dit un jour: lorsqu'un érudit meurt, les poissons dans la mer et les oiseaux dans les airs se mettent à pleurer. Le visage du savant n'est peut-être plus visible, mais son souvenir demeure. Comment la connaissance vous profite dans l'au-delà?
L'imam al-Ghazali rahmatullah alayh déclare:
une autre raison de l'excellence du savoir est due au fait que plus l'effet d'une chose est grand, plus elle est vertueuse. Et comme vous le savez, le bénéfice que le savoir procure dans l'au-delà est la proximité d'Allah Azza wa Jal. De même, les avantages mondains de la connaissance islamique sont une augmentation de l'honneur et de l'estime et la tendance naturelle à respecter une telle personne. C'est la vertu inconditionnelle de la connaissance. Ses branches englobent un large spectre. Comme la connaissance est issue des matières qui détiennent l'excellence, l'acquérir c'est poursuivre la plus excellente des affaires, tandis que l'enseigner c'est transmettre le bénéfice de la plus grande matière. 4 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des savants. Numéro 1. Combien louable est le savant de l'islam? Il transmet le bénéfice si le besoin s'en fait sentir et se garde indépendant si on l'ignore. Numéro 2. Il y a 100 rangs entre un érudit et un adorateur. La distance entre deux rangs est celle couverte par un cheval en bonne santé et entraîné qui court pendant 70 ans. Numéro 3. Un savant croyant possède 70 rangs d'excellence sur un adorateur croyant. Numéro 4. On demanda: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la plus grande action?
Al-ilmu billah,
a-t-il expliqué en réponse. On lui demande alors: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que considérez-vous comme étant la connaissance? La connaissance de l'être d'Allah, avoir la connaissance et la reconnaissance d'Allah. Il a également été demandé: notre question portait sur les actions physiques, mais vous avez répondu en mentionnant la connaissance au lieu de cela. Il répondit: si vous avez la connaissance de l'être d'Allah, même une petite quantité d'action causera alors un bénéfice. Si vous n'avez pas cela, alors même un grand nombre d'actions seront vides de bénéfices. La signification de la bonté dans ce monde et dans l'au-delà. En commentaire de la déclaration divine:
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.
Traduction: ô notre Seigneur, donne-nous le bien dans le monde et aussi le bien dans l'au-delà et sauve-nous du châtiment de l'enfer. Le célèbre tabi'i Hassan Basri rahmatullah alayhi dit: en ce qui concerne ce monde, hasanatan signifie connaissance et adoration. En ce qui concerne l'au-delà, cela signifie le paradis. Déclaration de pieux prédécesseurs concernant l'excellence de la connaissance islamique. Numéro 1. Le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar radiallahu anhu, a dit: ô gens, il est obligatoire pour vous d'acquérir des connaissances. En effet, Allah possède un tissu d'amour et celui qui apprend un chapitre de savoir sera enveloppé dedans par Allah. Numéro 2. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu a dit: apprenez la connaissance avant qu'elle ne soit levée, et la levée de la connaissance fait référence au savant qui meurt. Je le jure par celui qui a le pouvoir sur mon âme. Lorsque ceux qui deviennent martyrs dans la voie d'Allah Azza wa Jal voient le rang des savants, ils souhaiteront être décédés en tant que savants. Personne ne naît savant. La connaissance vient de l'apprentissage. Numéro 3. Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma a dit: réviser les connaissances pendant un certain temps la nuit m'est plus cher que de passer toute la nuit en adoration. La même chose a également été rapportée de Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu et de l'imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh. Numéro 4. Expliquant l'éminence des savants islamiques, Sayyidina Hassan Basri rahmatullah alayh a dit: l'encre des savants sera pesée contre le sang des martyrs, et leur encre l'emportera sur le sang des martyrs. Numéro 5. Sayyidina Ahnaf rahmatullah alayh a remarqué: les érudits deviendront bientôt des dirigeants, et toute forme d'honneur qui n'est pas fortifiée par la connaissance mènera au déshonneur. Numéro 6. Le célèbre imam Ash-Shafi rahmatullah alayh a dit: la grandeur de la connaissance se mesure au fait que celui à qui elle est attribuée devient heureux, même si c'est à propos d'une petite chose, et celui à qui elle est retirée devient triste. Numéro 7. Un érudit a remarqué un jour: si seulement je parvenais à savoir ce qui a été donné à celui qui n'a pas reçu la connaissance, et ce qui n'a pas été donné à celui qui a reçu la connaissance. Numéro 8. On a demandé à un sage quelles étaient les choses qu'il fallait collectionner. Il répondit: les choses qui nageront avec vous lorsque votre bateau coulera, c'est-à-dire la connaissance. Certains ont dit à ce sujet: la perte de son corps par la mort est ce que l'on entend par le naufrage ou l'immersion de son bateau. Numéro 9. Il a été dit que celui qui prend la sagesse comme reine verra les gens faire de lui leur imam, et celui qui comprend la sagesse sera regardé avec honneur par les gens. L'excellence de l'apprentissage et de l'enseignement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quitta un jour ses chambres bénies et entra dans la mosquée. Il trouva deux rassemblements. L'un récitait le Coran et suppliait Allah, tandis que l'autre apprenait et enseignait. Il expliqua alors: les deux sont sur le bien. Ces gens récitent le Coran et implorent Allah. Si Allah veut, il peut leur donner ou leur refuser. Ces gens sont occupés à apprendre et à enseigner, et sans aucun doute, j'ai été envoyé comme enseignant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est ensuite assis avec eux, dans le rassemblement de connaissances. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad.